Bon, rapport hier commandé par Environnement Canada concernant le réchauffement de la planète et la conclusion, c'est que ça se passe deux fois plus vite ici qu'ailleurs.
Ça cogne, ce rapport-là, ce matin. Je voyais les journaux. C'est le premier titre dans tous les journaux. Ça cogne parce qu'on savait qu'on était dedans, mais on le sait. Mais là, d'un coup, c'est traduit en chiffres et les chiffres sont brutaux. Et ce qu'on découvre en plus, c'est que malgré tous nos efforts, nos prétendus efforts, on est quand même les premières victimes actuellement. Si ça se réchauffe deux fois plus au Canada, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire plus d'inondations, plus d'incendies, l'érosion des berges. Ça veut dire que le nord, le pergélisol est en train de s'affaiblir, va fondre graduellement. Donc, les conséquences sont dévastatrices pour nous. Puis le coût de ces catastrophes-là va augmenter sans cesse. Alors, c'est un rapport qui, moi, ce matin, m'a touché profondément. Je me suis dit, parce qu'on en parle souvent, on en parle régulièrement, puis on se dit toujours, faut poser des gestes. Mais là, on se rend bien compte que les gestes individuels, c'est bien évident que c'est absolument nécessaire et essentiel, parce que c'est ça qui nous réveille puis qui nous tient réveillés, mais que c'est loin d'être suffisant. Ça veut dire qu'il faut agir non seulement, comme le pacte sur la transition l'a fait, essayer d'avoir le gouvernement du Québec qui met en œuvre des politiques anti-pollution, mais aussi le gouvernement du Canada. Puis au-delà du gouvernement du Canada, c'est l'ensemble du gouvernement des gouvernements de la planète. Parce que peut-être le chiffre qui m'a le plus effrayé, c'est que l'accord de Paris, dont tout le monde s'est réjoui, non seulement il n'est pas observé, mais même s'il était observé avec rigueur, ce serait encore insuffisant pour contrer les effets du réchauffement.
Bien, ça rejoint un peu ce que les autres groupes de chercheurs ont constaté dans le passé. Ce que le secrétaire général de l'ONU a constaté avant Noël, il reste 12 ans selon lui. Je pense que c'est une mesure, c'est une image qui est prise pour frapper l'imaginaire. Mais moi, ce qui me frappe, c'est, tu sais, on pense... D'abord, on dit réchauffement climatique. C'est pas le réchauffement climatique, c'est les changements climatiques. Et là, l'impact très réel, j'avais pas vu ça, t'es au Canada et une des choses que tu prends pour acquise au Canada, c'est l'eau. C'est l'accès à l'eau. Mm. Et là, le rapport dit, écoutez, si ça continue comme ça, en été, avec les canicules, on risque de voir des pénuries d'eau au Canada. Aïe aïe. Est-ce que ça va être... Maintenant, la question, c'est est-ce que ça va être assez pour réveiller les gens? Je veux juste signaler que la taxe carbone fédérale dans 4 provinces est entrée en vigueur hier. Et il y a une campagne qui est assez intense des partis conservateurs provinciaux, du Parti conservateur fédéral contre la taxe carbone, qui est de 5 sous le litre environ, et qui est atténué par un système de ristourne par chèque, là, OK? Donc, tu payes d'une poche, puis on te renvoie un chèque dans ton autre poche. Il y a quand même une campagne, et la campagne est tellement intense que les Canadiens de ces provinces-là qui ont été sondés avant la date d'entrée en vigueur du 1er avril disaient déjà, dans une proportion de 40%, que ça affectait leurs finances. Elle n'était pas encore entrée en vigueur.
On sait ce que c'est une taxe. On n'a pas besoin qu'elle soit en vigueur pour savoir ce que ça va faire.
Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Cette mesure-là est modeste et trop modeste aux yeux des économistes qui disent une taxe carbone, c'est la façon de changer les comportements. Et même là, on trouve que c'est trop.
Non, mais c'est parce que ce que je vois comme commentaire, là, puis je prends la balle puis je vous la relance, là. Puis même encore ce matin, des gens qui pensent que la taxe sur le carbone... Puis il faut dire qu'au Québec, avec le fonds vert, là, c'est pas très crédible, c'est pas très convaincant, mais bon, considère que c'est une arnaque pour venir voler plus d'argent dans nos poches. Deuxièmement, que le Canada aura beau faire ce qu'il veut, ce qu'il peut, ça a peu d'impact sur l'ensemble de la planète, que c'est marginal, et que finalement, somme toute, si on prend que le Québec, on pollue pas de temps avec ça. Je te résume là, les arguments que j'entends, puis que... On ne nie pas les changements climatiques, mais on met en doute la responsabilité de l'activité humaine. Si je résume là, les arguments... Non, mais tu sais, je te dis pas que c'est un courant dominant, mais encore ce matin, pendant l'entrevue avec M. Bourque, des gens disaient « Arrêtez, ne parlez pas de ça, vous savez bien que c'est pas vrai. » Puis il y a encore, malheureusement, un noyau qui pense que c'est une invention.
Hey, je sais pas trop comment réagir au fait que les gens peuvent penser que c'est encore une invention. Il y a des chiffres qui sont étonnants. Par exemple, je lisais que la Chine, hein, la population de la Chine, s'il y a une activité humaine susceptible de produire des GES, c'est bien l'ensemble de la population chinoise, le nombre. Et en Chine, ce qu'on dit, c'est qu'actuellement, là, les énergies renouvelables, c'est là où il y en a le plus. L'éolien, le solaire, c'est extrêmement répandu en Chine. Mais en même temps, ce qu'on dit, c'est que la production d'énergie fossile, dont en particulier le charbon, la pire là, au niveau de la production des GES, elle non seulement elle ne diminue pas, mais elle a augmenté au cours des deux dernières années. Et un des endroits dans le monde où ça augmente, évidemment, c'est la Chine. C'est vraiment aussi l'Inde et c'est les USA. Donc, les endroits les plus peuplés produisent de plus en plus de GES. Donc, la question, quand on regarde le fond vert, c'est de dire, on met de l'argent là-dedans, puis c'était quand même quelques milliards. C'est mal dépensé, c'est vrai, puis on a raison de critiquer la gestion de ce fonds vert-là. Mais en même temps, la question, c'est de savoir, OK, s'il faut agir, sur quoi et comment devons-nous agir d'une manière là la plus directe et la plus précise? Et au Canada, on le sait, au Québec, c'est moins présent, mais au Canada, on sait que actuellement les énergies fossiles, c'est concentré dans les sables bitumineux. C'est concentré dans le pipeline qu'on va exporter ailleurs. C'est sûr qu'il y a un coût, et le coût est extrêmement élevé à toutes les actions qui vont être significatives au niveau de ces énergies-là.
Dans le même sondage qui montrait que les Canadiens des provinces où la taxe carbone entrait en vigueur hier se sentait déjà étranglé par cette taxe-là avant même l'entrée en vigueur. Il y avait quand même des questions qui étaient moins pièges là, sur le fait que les réchauffements climatiques sont parmi les priorités, le top 2 des priorités qui vont guider les Canadiens aux prochaines élections. Donc, ça donnerait ça quelque chose comme 8 millions de Canadiens qui sont extrêmement inquiets des changements climatiques et 9 millions de Canadiens pour qui les changements climatiques, c'est dans le top 2 de ce qui va guider leur vote. Mais tu regardes combien de Canadiens ont voté pour le Parti libéral du Canada en 2015? 7 millions de personnes. Donc, moi, ma question est toujours la même. Si on est si préoccupé par les changements climatiques, si c'est un tel enjeu collectif là, qui nous inquiète, qui nous tient réveillés, pourquoi qu'on vote pas pour le Parti vert? Comment ça fait que le Parti vert a eu 600 000 voix en 2015. Mais c'est sûr que le Bloc québécois qui est concentré au Québec a eu plus de voix, 800 quelques mille, que le Parti vert à grandeur du pays. Moi, je pense que la réponse est simple. Oui, ça nous préoccupe, mais c'est pas vrai que ça nous préoccupe tant que ça. Et c'est tellement loin dans le temps, quelques décennies, l'impact réel, concret, qu'on s'en fout un peu.
Ben moi, je pense que tu peux pas réduire évidemment le vote à un sujet, même si ce sujet-là arrive le premier dans tes préoccupations. Là, quand même, la société va devoir se régir avec un système politique qui n'a pas que la seule considération des changements climatiques comme sujet. L'autre aspect, c'est que on répugne à parler d'une transformation aussi profonde parce que ce qu'on sait. Intuitivement, tout le monde le sait, c'est que le modèle de croissance, il est insoutenable et il ne peut pas durer. Or, nous sommes, il n'y a jamais personne qui va se faire élire, semble-t-il, pour le moment, en disant, écoutez, nous allons aller vers une décroissance majeure. Et la décroissance majeure va être entièrement consacrée au fait qu'on veut survivre comme population. C'est un discours, là. Je veux dire, moi, si j'étais homme politique, je pense qu'il n'y a pas aucun conseiller au monde qui me dirait, vas-y sur la place publique, t'as conseillé ça. Mais c'est de ça dont on devrait parler.
Moi, j'ai toujours pensé que si les gouvernements agissent quand ils sentent une volonté politique. S'il n'y a pas de volonté, la volonté politique vient de la volonté des gens. Tu sais, au Québec, dans ce sondage-là, c'est là où les gens étaient le plus inquiets. Ben, on a voté il y a quelques mois pour un parti qui est probablement celui qui a le moins parlé d'environnement dans la campagne électorale. Donc, on peut parler d'hypocrisie de nos dirigeants, Il faudrait se regarder dans le miroir comme électeur.
Aussi. Non, il y a quand même 260 000 personnes qui ont voté pour le pacte de la transition. Tu vois que le gouvernement, même caquiste, a fait quelques modestes efforts dans son dernier budget là, et que le fonds vert existe toujours puis qu'on veut... Tu sais, je veux dire, moi, je refuse d'entériner un discours désespérant parce que le discours désespérant, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire ce qu'on a lu ce matin. Là, c'est que dans 2100, on va être plongé dans de tels problèmes qu'on ne saura plus. Et l'autre affaire que tu as bien abordée ce matin, c'est qu'en même temps qu'il faut agir pour contrer ça, il faut s'adapter. Il faut commencer à imaginer quelles vont être les mesures qui vont permettre.
Est-ce que les villes font, entre autres? Il y a congrès il y a quelques semaines à peine, où justement les maires disent on commence à vivre les changements, donc les effets des changements. Comment on se prépare à ça?
Ben oui, puis comment on se prépare à une nouvelle agriculture, comment on élimine les pesticides, etc., etc., etc. En fait, moi, ce que je trouve grave, c'est qu'on le sait à peu près ce qu'il faudrait faire à tous les niveaux.
Il reste l'autre étape.
Exact.
On s'arrête pour la pause et au retour, est-ce que le caucus va être tranquille demain chez les libéraux fédéraux? Est-ce que Mme Ribold va se faire sortir? C'est ce que nous verrons la 13, monsieur.